Dans cette émission Au cœur de la foi, je suis heureuse d'accueillir Alain Delaye. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes enseignant à l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Vous enseignez les spiritualités orientales et vous avez publié en 2007, avec des rééditions, un livre qui s'intitule Sagesse concordante aux éditions Acarias l'originel, dans lequel vous travaillez 4 maîtres pour notre temps. Le sous-titre, c'est 4 maîtres pour notre temps. Au fond, comment vous est venue l'idée de vous pencher sur ces 4 maîtres? Donc je les cite: Eti, Elisoun. Et puis ensuite, les 3 autres, vous allez les prononcer parce que j'ai beaucoup plus de mal que vous. Pourquoi rapprocher et se poser cette question-là de sagesse concordante?
Oui, alors bon, mais je vais les nommer quand même. Donc, Etilsum, vous avez bien dit. Alors ensuite, donc, il y a la deuxième femme, c'est Vimalataka. Ensuite, Krishnamurti et Prajnapa. Alors en fait, il y a une Hollandaise et 3 Indiens. Hein. 2 Indiens et une Indienne, hein, voilà, au départ. Donc, comment j'en suis venu à les rapprocher? Eh bien, Comte Sponville, dans un livre donc sur Prajnapada, avait fait le rapprochement Prajnapada est un swami indien, donc moderne. Hein, il est à cheval entre deux cultures, sa culture hindoue et en même temps une culture occidentale, puisqu'il était professeur de physique. Et il a, comment dire, c'est un disciple de l'Advaita Vedanta, qui est un des grands courants de spiritualité hindoue. Et donc, il a, comment dire, publié une correspondance, ou plus exactement, on a publié sa correspondance, et qui aujourd'hui fait partie des grandes œuvres spirituelles hindoues, indiennes. Et comme il y a une convergence assez forte avec la pensée tout à fait à l'autre bout du monde, je dirais, d'Etilsum, j'ai voulu les rapprocher et en même temps élargir le débat à Krishnamurti, donc, et à Vimalathakar, qui sont aussi 2 maîtres que j'aime beaucoup.
2 maîtres hindous.
Voilà. Alors, 2 maîtres hindous, mais c'est le mot maître qui me gêne un petit peu, bien que je l'ai utilisé, parce que ce ne sont pas des gourous, hein, ce ne sont pas des maîtres au sens où en Inde, on se met à l'école d'un maître toute sa vie, par exemple. Hein, voilà. Non, ce sont des indépendants, hein, ce sont pas des leaders religieux, ce ne sont pas des fondateurs de communautés ni d'églises, mais ce sont des gens qui ont écrit, qui ont parlé, qui ont fait Vimalathakar et Krishnamurti, ont fait des conférences pendant des années et des années, dans le monde entier d'ailleurs, pas seulement en Inde. Et ils se sont signalés comme étant des phares, je pense.
Alors au fond, en travaillant ces concordances, quels sont les éléments de sagesse concordante que vous avez pu constater? Parce qu'au fond, la question de la sagesse est une question pour notre temps, un temps dans lequel la multiplicité des médias, des informations nous submerge, on ne sait plus très bien à quel saint se vouer, on pourrait presque dire. Donc au fond, qu'est-ce que vous entendez par concordance?
Oui, eh bien, par concordance, enfin, c'est un mot que j'ai utilisé qui au départ, disons, n'était pas mon propos, mais au fur et à mesure que j'ai progressé dans l'étude, je dirais, la lecture de ces 4 personnes, je me suis rendu compte qu'il y avait une convergence assez forte, bien qu'elle soit très différente par leur tempérament, par leur origine aussi, hein, puisque, comme je vous l'ai dit, bon, une Hollandaise et des Indiens, bon, c'est pas tout à fait la même chose. Eh bien, malgré ça, il y a une convergence très très forte sur quelques grands thèmes, donc que j'ai essayé de sélectionner. Et à partir de là, donc, j'ai fait un travail de spiritualité comparée, on va dire, avec entre ce qu'ont écrit, entre les propos, disons, de ces 4 personnes. Et je me suis rendu compte, et j'ai été mon premier, je dirais, mon premier lecteur, hein, je me suis rendu compte que c'était étonnant de voir à quel point, sur des sujets fondamentaux, il y avait une convergence de fond.
Alors, quels sont les sujets fondamentaux sur lesquels vous avez rapproché?
Alors, évidemment, les thèmes fondamentaux, je les ai sélectionnés au fur et à mesure, hein, je ne les ai pas pris d'emblée. Il y en a 6, hein, d'abord. Donc, voir, hein, le thème voir, c'est-à-dire avoir une vision juste des choses, hein, ne pas se contenter des savoirs appris. Essayer de voir comment ce qui se passe exactement dans la vie, ne pas se contenter donc de se mettre à la remorque de choses qu'on nous dit. Ensuite, accueillir, accepter. Prajnapada dit souvent la vie est une suite de non. Eh bien, il faut apprendre à dire oui dans la vie, il faut apprendre à accepter. Ce qui ne veut pas dire que par moments il faut aussi s'indigner, il faut aussi se révolter, mais avant tout accepter. Et si on ne le fait pas, on s'enfonce dans le ressenti. Donc c'est le deuxième thème. Un troisième thème, c'est être libre. Là, ils sont tous les quatre tout à fait convergents. Être libre, et être libre dès le début. Hein, parce que souvent, on présente la voie spirituelle, marchez, marchez, et puis vous verrez au bout, vous aurez la liberté. Non, tous les quatre, la liberté doit être au premier pas. Vous devez, dès le départ, être libre. Libre dans votre démarche. Vous ne devez pas attendre la liberté. La liberté, vous l'avez. Vous allez l'approfondir, vous allez l'élargir. Mais au départ, il faut que vous soyez libre. Donc, ne vous mettez à la remorque de personne, mais évidemment, prenez conseil, instruisez-vous, ça oui. Mais disons, ne prenez pas de maître de manière aveugle.
Qu'est-ce qu'ils appellent la liberté, du coup, pour eux? Comment elle se définit, cette liberté?
Eh bien, la liberté, c'est d'abord une liberté de compréhension, c'est-à-dire qu'il ne faut rien faire, il ne faut pas agir si l'on n'a pas compris pourquoi on agit. Donc, le thème de l'action que je traite aussi est très important, mais avant d'agir, il faut soi-même voir quels sont les motifs que l'on a d'agir, être persuadé qu'on agit dans le bon sens, quoi. Et donc, il faut voir et accepter les situations dans lesquelles on est, et à partir de là, donc, pouvoir mener une action basée sur la compréhension et non basée sur le discours de quelqu'un d'autre. Donc là, c'est une des choses. Et puis, il y a deux autres thèmes aussi sur lesquels je les ai rapprochés. C'est deux thèmes d'ailleurs très ambigus. Le thème de l'amour, amour, aimer et vivre. Hein. Alors l'amour pour eux, ce n'est pas du tout l'amour romantique, hein, tel qu'on peut le concevoir, on l'a conçu dans une certaine littérature. L'amour, c'est simplement la prise de conscience. L'amour, c'est la règle de vie à partir du moment où on prend conscience qu'il y a entre tous les êtres une solidarité existentielle. Si cette solidarité est perçue en profondeur, l'amour ne peut être que la règle de vie. Vimalathakar, je me souviens, nous disait dans le monde, il n'y a pas d'objet. Il n'y a pas d'objet. Dans le monde, il n'y a que des compagnons d'existence. Tout ce qui est autour de vous, les êtres humains, mais pas seulement les êtres humains, tous les végétaux, les animaux, la lune, le soleil, la mer, tout, ce sont tous des compagnons d'existence. Hein, et nous avons donc, c'est un amour, je dirais, qui s'étend au cosmos, quoi, voilà. Et vivre, c'est ça. Vivre, c'est vivre cette règle d'amour dans les situations que la vie nous amène.
Au fond, c'est ces thèmes qui sont, on pourrait quand même dire, presque universels. Il y a une certaine universalité dans cette convergence. Au fond, comment chacun le décline avec sa sensibilité propre?
Alors là aussi, c'est important, oui, en effet, c'est une question importante, parce que c'est pas du tout quatre auteurs qui disent les mêmes choses. Ils ont des langages, des discours, des vocabulaires, on va dire, très différents, puisque par exemple, Krishnamurti et plutôt Vimalathakar et Prajnapad ont... Ils parlent le langage hindou, ils parlent le langage des Upanishads, de la Bhagavad Gita, du Vedanta, du yoga. Ils parlent à partir de textes spirituels qui font partie de leur propre patrimoine, de leur tradition, mais des textes qu'ils ont intériorisés. Ils ne se contentent pas de répéter les textes, mais ils les ont assimilés en profondeur et ils les redonnent à partir de leur propre expérience. Ethil Soum, elle, bien qu'elle ait quelques ouvertures vers l'Orient, disons, elle aura plutôt un langage biblique, un langage de mystique chrétien. Elle connaît Maître Eckhart, elle connaît Saint-Augustin, elle aimait beaucoup les confessions de Saint-Augustin. Quant à Krishnamurti, il a son langage à lui. C'est un iconoclaste, Krishnamurti. Il a envoyé promener beaucoup de choses. Et en particulier, on a voulu faire de lui, à un moment donné, quand il était très jeune, le messie du monde à venir. La société de théosophie voulait faire de lui le messie du monde à venir. Il a joué le jeu tant qu'il était jeune, et puis il est venu à un moment où il a dit, écoutez, on arrête maintenant la comédie. Vous dites que je suis le grand maître, c'était l'ordre de l'étoile à l'époque. Il a convoqué tous ses disciples, 3000 disciples. Vous dites que je suis le grand maître de l'ordre de l'étoile. Eh bien moi, le grand maître de l'ordre de l'étoile, je dissous l'ordre de l'étoile. Désormais, je vous renvoie chacun à votre propre liberté. Parce que je ne suis pas ici pour vous dire ce que vous avez à penser et à faire, mais vous avez à trouver vous-même votre propre voie. Ceci dit, il a quand même parlé beaucoup, mais il n'a jamais voulu de successeur. Donc il s'est créé un langage religieux propre. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à travers quatre langages, je dirais très différents, eh bien, on retrouve les mêmes intuitions de
Freud. Au fond, Alain Delaye, pour terminer, peut-être, vous pourriez nous indiquer comment vous avez perçu, à partir de ces quatre langages, de ces quatre univers, on pourrait dire spirituels aussi, comment ils peuvent être pour nous aujourd'hui, pour chacun de nous, dans un autre espace, dans un autre monde, avec d'autres racines, non pas des maîtres qui nous diraient ce qu'il faut faire, mais des maîtres qui nous éveillent.
Oui, oui, je pense qu'en effet, ce sont des éveilleurs. Ce sont des éveilleurs, d'une part, parce que ça a été... Ils n'ont parlé, finalement, et même Etil Soum, qui a écrit son journal, ils n'ont parlé que pour faire surgir chez chacun ce qu'il a de plus profond. Donc, en ce sens-là, ce sont des éveilleurs. Et en même temps, ce ne sont pas des maîtres, comme je le disais tout à l'heure, ce ne sont pas des maîtres au sens où ils auraient voulu fonder un mouvement, où ils auraient voulu créer une église, où ils auraient tout ça. Donc, je me rappelle, par exemple, Krishnamurti, dans une de ses dernières conférences, disait, il arrivait, il était tout menu, tout ça, il arrivait sur scène, là, il y avait beaucoup de monde qui venait l'écouter, et il commençait son entretien ainsi. La personne que vous avez devant vous n'a aucune importance. Je n'ai aucune importance. Si ce que je vous dis vous touche quelque part, essayez de le retenir, et voilà, à partir de là, construisez-vous, faites quelque chose. Mais, et il n'a jamais voulu qu'on s'autorise de lui pour prêcher une doctrine ou tout ça. Et donc, il a un langage tout à fait sui generis, tout à fait à lui, quoi. Donc, et il faut c'est étonnant de voir à quel point il rejoint les autres malgré cette liberté.
Alain Delaye, merci infiniment d'avoir été avec nous, de nous avoir donné envie de découvrir ces quatre maîtres qui n'en sont pas tout à fait, qui sont des éveilleurs. Donc, je rappelle votre ouvrage, Sagesse concordante, aux éditions Acarias, l'originel. Alain Delaye, merci et à très bientôt. Au revoir.
Au revoir.